Bonjour. Aujourd'hui, la langue de travail sera le français, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Notre collègue allemand n'ayant pas pu venir. Les deux orateurs de cet après-midi sont Pierre Magistretti, qui est ici, et Luc Mallet, qui est là-bas. Ils s'intéressent tous les deux à l'exploration du cerveau, d'où le titre pour l'après-midi que nous avons donné. Pierre Magistretti occupe cette année une chaire internationale au Collège de France. À part ça, il est professeur à Lausanne. Il travaille avec une équipe de psychiatres et il est par ailleurs responsable d'un laboratoire de recherche. Et il s'intéresse particulièrement aux phénomènes énergétiques qui ont lieu dans le cerveau. Quant à Luc Mallet, il travaille à la Pitié-Salpêtrière, il est psychiatre, et il s'intéresse particulièrement aux résultats de l'implantation d'électrodes dans le cerveau à titre thérapeutique chez des personnes dont c'est la principale thérapeutique disponible à l'heure actuelle. Il est responsable d'une unité de recherche qui s'appelle « Comportement, émotion et ganglions de la base ». La confrontation entre les deux va être particulièrement intéressante. Je laisse tout de suite la parole à Pierre Magistretti, qui va parler une petite heure. Puis Luc Mallet parlera une petite heure et nous aurons la troisième heure pour une discussion.
Merci beaucoup. Anne Fagolargeau pour cette opportunité. Je vais peut-être m'asseoir parce que... C'est peut-être plus pratique pour le micro. Dans le cadre de ce séminaire sur les méthodologies, différentes approches en psychiatrie, évidemment, mon approche va être celle que je connais, que j'essaye de pratiquer à Lausanne, où je m'occupe d'un centre de neurosciences psychiatriques qui est implanté dans un département de psychiatrie. Il s'agit donc, en fait, de un certain nombre de groupes de neurobiologistes fondamentaux qui sont au sein du département de psychiatrie et dont le but est finalement de mettre au service d'essayer de comprendre, enfin de la compréhension des maladies psychiatriques, les connaissances, les approches méthodologiques des neurosciences fondamentales. Donc ce sont essentiellement tous des fondamentalistes, mais tous leurs projets de recherche sont orientés vers des approches qui visent à essayer de comprendre la physiopathologie, enfin pour autant qu'on puisse se défricher tout ça actuellement, en psychiatrie. J'ai également un lien avec l'École Polytechnique Fédérale où je m'occupe d'un centre qui est, lui, purement de recherche fondamentale. Donc je suis appelé, et c'est aussi ce qui m'intéresse vraiment, et je pense que je suis privilégié de pouvoir essayer de faire ce lien entre les neurosciences et la psychiatrie. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais diviser ma présentation pour donner du matériel pour la discussion, donc ce n'est pas quelque chose de très formel, en deux grandes parties. D'abord, les aspects de neurosciences fondamentales qui, comme l'a dit Anne Fagolargeau, correspondent à ma recherche, c'est-à-dire la neuroénergétique, les mécanismes cellulaires et moléculaires de la régulation du métabolisme énergétique cérébral, et ce sous deux angles, même je dirais trois. L'un, un aspect physiologique. Au départ, je suis physiologiste, j'étais pendant de nombreuses années dans un institut de physiologie. Deuxièmement, et ça, c'est quelque chose de plus récent, mais comme vous le verrez, comme vous le savez certainement, les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale qui sont fondamentales, enfin qui apportent vraiment un saut quantique en psychiatrie, entre autres, sont basées sur la mise en évidence de signaux qui, en fait, sont des signaux de consommation d'énergie qui, on l'espère, en fait, je pense qu'il y a de bonnes raisons de le croire, correspondent en fait à l'activité de circuits neuronaux. Donc, le fait de mieux connaître les mécanismes cellulaires et moléculaires neuroénergétiques de la régulation de la consommation d'énergie par le cerveau nous permet aussi peut-être de comprendre, d'ouvrir des portes, des fenêtres vers l'imagerie cérébrale et notamment lorsque des altérations, des signaux sont mis en évidence, ça nous permet peut-être de réfléchir à certaines cibles possibles. Et je vais discuter tout ceci. Et puis, disons, le troisième aspect de cette neuroénergétique, c'est peut-être l'implication, en tout cas, soit comme marqueur, soit peut-être comme agent ou mécanisme physiopathologique dans certaines pathologies psychiatriques. Et ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie de mon exposé se tournera vers quelque chose qui m'intéresse comme ça depuis des années en filigrane et que j'avance de manière plutôt théorique, mais j'essaie évidemment d'en faire le lien avec le reste de ce que je fais. Ce sont d'essayer de réfléchir autour des aspects neurobiologiques de l'inconscient, des processus non conscients. Ce qui m'a amené en lien avec une expérience psychanalytique personnelle, à m'intéresser au lien entre neurosciences et psychanalyse. Alors là, on est dans un domaine plus spéculatif, mais enfin, je pense que c'est aussi un bon lieu ici pour essayer d'en débattre. C'est aussi une approche, finalement, pour essayer de comprendre le psychisme. Voilà. Alors... comme toutes ces images, ça c'est une image d'ailleurs assez ancienne, il y a plus d'une dizaine d'années, d'imagerie cérébrale fonctionnelle, qui montre qu'en fait on peut mettre en évidence, là, par rapport à une modalité bien précise qui est celle du langage, l'activation de différentes régions cérébrales. Aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux, je monte cette ancienne diapo expressément, mais on voit déjà que les régions postérieures visuelles vont être activées. Je vais voir si je peux peut-être faire ça avec la souris. Non, bon, c'est pas grave. Les régions postérieures sont activées par la vision passive, activation du cortex visuel primaire. L'écoute active d'autres régions. Le fait de parler également, en particulier certaines autres, et puis de générer des verbes, donc encore d'autres. Donc tout simplement, je ne rentre pas dans les détails, comme je vous dis, on peut faire beaucoup plus fin aujourd'hui. C'est simplement pour montrer la possibilité qui s'est offerte, maintenant il y a une vingtaine d'années, je dirais, de voir le cerveau au travail, de pouvoir, avec de plus en plus de finesse, selon les tests qui sont appliqués, de pouvoir... mettre en évidence les régions cérébrales impliquées dans telle ou telle fonction. Alors, ce que l'on voit ici, comme je l'ai dit au tout début, et vous le savez certainement, ce n'est pas une activation, une mise en évidence de l'activation électrique ou des phénomènes électrochimiques de la transmission synaptique. C'est en fait une consommation d'énergie, dans le cas particulier de glucose, qui, en fait, est augmentée dans les régions qui sont mobilisées. Donc, en fait, et ça, c'est vraiment le point central à retenir, c'est que les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, en fait, mettent en évidence des consommations d'énergie, des indices de métabolisme et des indices vasculaires qui sont, comme je vous le disais, on l'espère, et je vous montrerai comment on pense sur la base de nos résultats expérimentaux que ce couplage se fait, qui sont couplés à l'activité synaptique. Et vous le savez probablement, on peut mettre en évidence par la tomographie à émission de positons en utilisant des molécules marquées avec des émetteurs de positons, comme le fluor 18 ou l'oxygène 15, soit la consommation de glucose, fluorodéoxyglucose, soit la consommation d'oxygène, soit le débit sanguin en utilisant comme marqueur de l'eau marquée à l'oxygène 15. Et puis, plus récemment, ceci, vous le savez, implique un certain équipement. Il faut un cyclotron qui génère ces émetteurs de positons. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal qu'on peut faire comme ça dans un petit laboratoire. Par contre, et donc, si vous voulez, cette exploration fonctionnelle TEP a été pendant une dizaine d'années limitée, enfin, cette exploration fonctionnelle tout simplement a été limitée à certains centres qui pouvaient bénéficier de cyclotrons qui produisaient ces émetteurs de positons et puis avec toute la radiochimie qui va avec. Et puis, au début des années 90, est venue une autre technique d'imagerie qui a surpris pas mal de gens, en tout cas quant à sa base physiologique, pardon, et je l'expliquerai dans un petit moment. C'est la résonance, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui, elle, en fait, met en évidence une altération du rapport oxy-déoxyhémoglobine dans la région activée. Et comme la déoxyhémoglobine a des propriétés paramagnétiques particulières, elle agit comme une sorte d'agent de contraste naturel et qui est sensible aux changements d'activité neuronale, enfin des mécanismes de couplage entre l'activité neuronale et le débit sanguin. Donc, en deux mots, voilà de quoi on parle, voilà de la nature de ces signaux. Je veux juste dire au passage ici que le cerveau est un organe qui, du point de vue énergétique, est très coûteux, si je puis dire. C'est-à-dire que bien qu'il ne constitue que 2% de la masse corporelle, il consomme essentiellement 20 à 25% de l'énergie, donc aussi bien l'indique par la consommation de glucose, d'oxygène ou de débit sanguin. Donc à peu près 10 fois plus de ce que l'on s'attendrait par rapport à sa masse. Et ce que l'on verra, c'est qu'en fait, lors de l'activation, ce niveau basal très élevé, que je vais essayer de discuter vers la fin, en fait, est augmenté, la consommation est augmentée localement, justement, et on va détecter avec les techniques d'imagerie fonctionnelle ces augmentations de consommation d'énergie locale qui sont couplées à l'activité. Et juste une petite note historique, je vais être très rapide, mais il semblerait que c'est Mark Raichel qui a proposé ça. Peut-être qu'il y a des historiens qui ont démontré ça, enfin qui ont identifié des sources plus précoces, mais on peut dire actuellement que la première expérience d'imagerie cérébrale fonctionnelle a été faite par un physiologiste italien, Mosso, à Turin, qui avait mis en évidence chez un patient qui avait une fenêtre crânienne suite à une lésion, il pouvait en fait voir en transparence et détecter aussi des changements de pulsation, donc de flux sanguin local. Et finalement, ce patient avait des changements de cette pulsation lorsque, par exemple, il entendait, il était en salle d'examen, il entendit des cloches sonner. On voit ici un changement dans les pulsations, alors qu'au niveau périphérique, il n'y a aucun changement de la pulsation. On lui demande de prononcer quelques mots, de faire un calcul. Enfin, il y a là une première évidence comme quoi il y a une régulation locale du débit sanguin en rapport à une activité, on va dire même cognitive d'une certaine manière. C'est évidemment très rudimentaire, c'est pas entièrement clair ce qu'il mesurait, mais ces données sont assez parlantes. En fait, la formulation claire, disons, on va dire scientifique, de la première formulation de l'existence d'un couplage entre l'activité neuronale et une réponse vasculaire a été faite par Charles Sherrington en 1890, un peu après l'expérience de Mosso, et sur la base d'expériences conduites avec beaucoup plus de précision chez des lapins ou des chiens, il fut en mesure de formuler ce qui reste encore aujourd'hui un principe fondamental de la physiologie cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau possède un mécanisme intrinsèque par lequel le débit sanguin peut être varié localement en correspondance avec les variations locales de l'activité fonctionnelle. Et c'est là-dessus qu'est basée finalement toute l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Et on sait aujourd'hui que, d'ailleurs, ce n'est pas que le débit sanguin, mais c'est aussi la consommation de glucose qui est liée à l'activité synaptique. Et finalement, cette proposition, basée sur des données expérimentales, est restée comme une proposition, sans vraiment que les mécanismes cellulaires et moléculaires qui opèrent ce couplage soient révélés pendant pratiquement un siècle. C'est-à-dire, la question qui est restée pour les neurophysiologistes était celle de se dire comment, en fait, s'effectue ce couplage entre les mécanismes, les phénomènes électrochimiques qui se produisent au niveau synaptique, au niveau axonal et synaptique, probablement, c'est là où se fait l'échange d'informations entre les neurones, et ces réponses métaboliques et vasculaires, vasculaires notamment présentées par Sherrington et métaboliques par d'autres, Sokolov entre autres, et qui, comme je vous l'ai dit, ont dépassé le cadre de l'intérêt purement, qui serait, enfin, je pense, même suffisant, mais enfin qui a dépassé le cadre de la physiologie pour, en fait, poser la question et fournir, en quelque sorte, la base pour les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Alors, pendant de nombreuses années, finalement, l'idée était que, finalement, en fait, il y a le neurone, en quelque sorte, allait obtenir les substrats énergétiques nécessaires à son activité directement par les capillaires intraparenchymateux, et que, en quelque sorte, un certain signal non déterminé serait passé du neurone, le consommateur, au capillaire, le producteur ou le fournisseur d'énergie, et que l'affaire était réglée. Et en fait, pendant de nombreuses années, différents agents ont été évoqués, le potassium, les protons, l'acidité, l'adénosine, enfin toute une série d'agents vasoactifs. Mais en fait, c'était en fait ne pas prendre en compte un élément fondamental qui est un élément cellulaire fondamental, qui est l'astrocyte, qui est une cellule gliale, qui est un type de cellule gliale. Vous savez certainement, on a une centaine de milliards de neurones, et on a autant, si ce n'est même probablement plus, voire deux à trois fois plus, de cellules gliales. Et parmi ces cellules gliales, on compte ces astrocytes qui ont un arrangement tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'ils ont des processus qui entourent les synapses, et cette couverture astrocytaire des synapses varie. En fait, c'est quelque chose qui est plastique. Je pourrais peut-être en discuter plus tard. C'est un phénomène très intéressant. Mais en tout cas, une grande majorité des synapses sont entourées, engainées, si vous voulez, par ces processus astrocytaires. Et puis d'autres processus, en fait, entourent les capillaires et recouvrent essentiellement, par ce qu'on appelle des pieds astrocytaires, les capillaires intraparenchymateux. Donc, voilà une cellule qui, de par sa position, semble idéalement conçue, si on peut dire comme ça, en tout cas idéalement positionnée, pour jouer un rôle de couplage, de détecter l'activité synaptique et la coupler à la fourniture d'énergie. Et en fait, on ne découvre jamais rien, vraiment, Camillo Golgi, à la fin du 19e siècle, avait déjà proposé que ces cellules gliales pouvaient jouer un rôle dans la fourniture d'énergie aux neurones sur la base justement de cette disposition bien très évocatrice. Alors, je passe sur beaucoup de résultats, ce n'est pas le lieu ici de rentrer dans les détails, mais je vous présente essentiellement le résumé d'une dizaine d'années de travaux de mon laboratoire qui ont permis de disséquer les mécanismes cellulaires et particulièrement et en même temps moléculaire, du couplage neuroénergétique, on va dire. C'est-à-dire, quels sont les signaux ou le signal que l'astrocyte détecte, et qui est un signal qui forcément doit être un signal synaptique, vu qu'il s'agit de coupler l'activité synaptique à la fourniture d'énergie, et quels sont les mécanismes que ce signal enclenche au niveau de l'astrocyte, et ensuite comment tout ceci permet de fournir de l'énergie de manière très spécifique là où il faut, quand il faut. Parce que c'est ça qui fait de nouveau l'efficacité du système du point de vue physiologique, mais c'est ça aussi qui fait la spécificité spatiale et temporelle des techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale, parce qu'il faut que ce signal énergétique se manifeste là où il y a l'activité synaptique. Alors, pour aller très rapidement, le signal, et ce n'est peut-être pas une surprise, c'est le glutamate. Le glutamate est le neurotransmetteur principal du système nerveux. 85% des synapses dans le cortex cérébral utilisent du glutamate. C'est lorsque une voie, qu'elle soit motrice, sensorielle, d'intégration, met en jeu automatiquement la libération de glutamate. Et il se trouve que ce glutamate, alors ça, ça a beaucoup été étudié par les neurophysiologistes, les électrophysiologistes, va évidemment activer des récepteurs postsynaptiques et être le véhicule, le mécanisme de fondamental de la transmission synaptique, du transfert d'informations. Ça, ça a bien étudié, des récepteurs, des sous-classes de récepteurs, toutes sortes d'intégrations, je passe là-dessus. Mais il y a un autre phénomène qui met en jeu les astrocytes, qui est en fait que ce glutamate, au fur et à mesure qu'il est libéré par les synapses activées, il est recapté de manière très efficace par l'astrocyte. Il est recapté ici par ce transporteur particulier qui est une macromolécule transmembranaire qui agit de manière très efficace pour faire disparaître le glutamate de la fente synaptique. Et ceci, si on veut raisonner en termes, disons, finalistes, à deux buts, en tout cas deux fonctions claires. L'une, c'est d'assurer un rapport signal-bruit excellent, n'est-ce pas ? Si le glutamate était libéré en présence de beaucoup de glutamate dans la synapse, évidemment, le signal serait très faible, alors que si du glutamate arrive dans une synapse où il n'y a pratiquement plus de glutamate, évidemment, le signal va être très efficace. Donc, un, rapport signal-bruit, et deux, en fait, comme vous le savez peut-être, le glutamate, enfin comme tout, un peu c'est bien, trop c'est mauvais. C'est-à-dire qu'un excès d'activation glutamatergique va surstimuler les récepteurs et en fait enclencher des processus intracellulaires qui sont dommageables pour la cellule, qui impliquent notamment des augmentations de calcium intracellulaire importantes. Et en tout cas, on pense aujourd'hui que ce sont par exemple des mécanismes qui sont enclenchés lors de l'ischémie cérébrale. C'est ça qui va tuer les neurones, cet excès, cette excitotoxicité, comme on l'appelle. Également peut-être, il y a certaines discussions autour des maladies neurodégénératives, que peut-être un excès chronique de glutamate synaptique puisse aboutir à une neurodégénérescence. C'est peut-être moins fortement établi que pour l'ischémie, la mort aiguë. Donc, le glutamate, effectivement, c'est une molécule qui est très riche en termes de signalisation, mais elle est aussi potentiellement dangereuse. Donc, voilà, ce mécanisme assure donc, en fait, de maintenir les niveaux de glutamate synaptique très bas. Alors, il se trouve que, et là aussi, je vais aller assez vite, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce glutamate entre avec du sodium dans l'astrocyte, parce que c'est la force électrochimique du sodium qui va permettre l'entrée de glutamate. Et ce sodium va modifier la concentration de sodium dans l'astrocyte, va perturber l'homéostasie sodique, et comme dans n'importe quelle cellule de l'organisme, l'homéostasie sodique est rétablie par l'action d'une molécule, d'une macromolécule, qui est la sodium-potassium-ATPase, qui va extruder du sodium en échange de potassium, mais ça va coûter de l'énergie. C'est une ATPase, ça consomme de l'énergie. Donc, si vous voulez, le fait de recapter du glutamate, le fait que l'astrocyte recapte du glutamate va coûter de l'énergie à l'astrocyte. Et ceci va en fait enclencher une série de mécanismes qui vont aboutir, cette baisse d'énergie va être un signal pour importer du glucose au niveau de l'astrocyte. Mais c'est quand même le neurone qui consomme le plus d'énergie. L'astrocyte détecte l'activité, est soumis à une baisse énergétique, mais ses besoins énergétiques sont infiniment plus petits, à peu près 10 fois plus petits que les neurones. Donc la question qui se posait lorsque nous étions dans cette investigation, c'était mais quel est le substrat que les astrocytes vont fournir aux neurones ? Et à notre grande surprise, nous avons mis en évidence qu'il s'agit de lactate. Lactate qui qui a assez mauvaise presse dans les cercles neurologiques parce qu'il est associé à l'ischémie. Mais en fait, il y a un mécanisme cellulaire bien connu qui est la glycolyse aérobie, la production de lactate en présence d'oxygène. Notamment les tissus tumoraux font ça. Et lorsque du lactate est libéré, il est recapté par le neurone qui peut le transformer en pyruvate notamment et avoir de l'énergie à disposition. Donc voilà. Pour revenir au point, sans rentrer dans les détails, le point central, c'est de dire que le couplage neurométabolique entre l'activité synaptique et la fourniture d'énergie aux neurones est médié par les cellules gliales, les astrocytes, qui détectent le signal glutamatergique et fournissent du lactate aux neurones. Et sur la base de ces observations, nous avons formulé une hypothèse qu'on a appelée le astrocyte neuron lactate shuttle en anglais, ou navette lactate astrocyte neuron, et qui, en fait, tout simplement, je résume ici ce que j'ai dit, le signal est un signal neuronal qui va déclencher toute une série de mécanismes intracellulaires qui vont aboutir à l'entrée de glucose et par des enzymes qui sont sélectivement localisées dans les astrocytes et les neurones, fournir du lactate aux neurones qui aura de l'énergie à disposition. Et il y a toutes sortes de raisons qui nous ont fait penser, qui font penser, enfin c'est une certaine évidence, que le lactate est à la limite plus intéressant que le glucose comme substrat. Et je vous donnerai une seule raison, il y en a d'autres, mais une seule raison, c'est que pour utiliser du lactate, il ne faut pas investir d'énergie. Le lactate peut être transformé directement en pyruvate et consommé. Or, si une cellule veut consommer du glucose, doit consommer du glucose, on n'a que du glucose comme substrat, ce glucose doit être phosphorylé, donc il faut investir de l'énergie pour consommer le glucose. Voilà une des raisons pour lesquelles probablement le lactate est un substrat efficace. Et là, sans rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que si on fournit à des neurones du lactate et du glucose en même temps, eh bien, par exemple, les neurones préféreront utiliser 4 à 90% le lactate et n'utiliseront que 10% de glucose. Donc c'est vraiment un substrat très intéressant pour les neurones, visiblement. Alors, deux petits points encore avant de passer à comment tout ça nous met en lien un peu plus directement. Je vais élaborer autour de l'imagerie cérébrale et ensuite comment cette imagerie cérébrale peut révéler certaines anomalies dans certaines pathologies psychiatriques. Et maintenant, en connaissant mieux les mécanismes cellulaires à la base des signaux détectés par imagerie, on peut aussi envisager certaines cibles comme cellulaires et moléculaires, en tout cas, soit comme dysfonction primaire, soit secondaire dans certains troubles psychiatriques. Alors, mais avant de passer à ça, j'aimerais encore juste vous donner un très bref éclairage sur les aspects fondamentaux, parce que je pense qu'ils sont importants, notamment par l'imagerie. Vous avez ici, en fait, une image que m'a fournie Christian Giaume, ici au Collège de France, qui démontre l'existence de ce que l'on appelle des réseaux d'astrocytes. Comme il y a des réseaux de neurones, il y a aussi des réseaux d'astrocytes. En fait, ce que Christian a fait, c'était d'injecter, disons au hasard, cet astrocyte-là, un astrocyte avec un colorant. Il a attendu quelques temps, une demi-heure à une heure, et révélé cet spécimen cérébral. Et ce qu'il a vu, c'est un réseau, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est un réseau d'astrocytes. Donc les astrocytes sont connectés visiblement les uns aux autres, parce que si on injecte un colorant dans un, on va en marquer des dizaines. Donc il y a quelque chose, c'est une dimension à prendre en compte. Et surtout, il faut vous imaginer ça comme une sphère, naturellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour du point de vue métabolique, par rapport à ce que je vous ai dit? Ça veut dire que lorsque une synapse est activée, ou quelques synapses sont activées, et que ces mécanismes d'importation d'énergie vont être mis en jeu, en fait, on peut imaginer que par ce réseau astrocytaire, en fait, un volume de cortex cérébral plus grand que simplement celui autour de la synapse ou des quelques synapses impliquées va être intéressé. Ce qui veut dire plusieurs choses, mais peut-être je m'en tiendrai à une par rapport à l'imagerie, vu que c'est quand même le fil conducteur de ce que je veux dire aujourd'hui. En fait, ça veut dire qu'il y a une limite spatiale aussi, une limite physiologique à la résolution spatiale de ces techniques d'imagerie. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on active, comme je l' ai dit, quelques synapses, en fait, on va intéresser, on aura un signal qui va aller bien au-delà de ce volume synaptique occupé par ces quelques synapses. Et que, donc, la résolution spatiale va forcément limitée par le fait que c'est un volume plus grand qui est intéressé. Et ça peut avoir, là aussi, des implications qui méritent d'être prises en compte. Mais venons-en peut-être à la première étape qui va nous lier plus directement à l'imagerie. On a raisonné de la manière suivante. Si vraiment ces transporteurs au glutamate présents sur les astrocytes sont essentiels pour coupler l'activité synaptique à la consommation de glucose, on devrait s'imaginer que si on élimine où on diminue l'efficacité de ces transporteurs, on aura un couplage moins efficace. C'est assez simple comme raisonnement. Alors, ce que l'on a fait, on a fait ça chez l'animal, on a diminué par des techniques de biologie moléculaire assez simples, ce qu'on appelle des inhibiteurs, des petits RNA, ARN, pardon, qui vont diminuer, qui sont spécifiques pour le transporteur glial et qui vont diminuer, en d'autres termes, l'expression de transporteurs au glutamate. Donc on s'est mis dans des conditions où, in vivo, un animal aurait moins de transporteurs au glutamate glial exprimés pendant un certain temps. Et ensuite, on a stimulé, comme on demanderait à quelqu'un de bouger la main et on regarderait son cortex moteur et sa consommation de glucose dans le cortex moteur, on a stimulé sélectivement une vibrisse. Et là, il y a une voie, un circuit neuronal bien connu qui a une grande somatotopie où on va d'une vibrisse spécifique à un baril, comme on l'appelle, une sous-région du cortex somatosensoriel précis, donc on sait où aller regarder. Eh bien, on voit que si on diminue l'expression de ce transporteur au glutamate glial, on n'a plus de signal. Alors là, on est dans des conditions expérimentales, c'est la radio-autographie, on sacrifie l'animal, on prépare des tranches de cortex, et puis on révèle tout ça, mais en quelque sorte, c'est l'équivalent d'une TEP, c'est-à-dire qu'on va regarder la consommation de glucose dans la région qui nous intéresse. Et ce que l'on voit, c'est que s'il n'y a plus, ou en tout cas beaucoup moins de transporteurs gliaux au glutamate, il n'y a plus de signal d'imagerie. Donc, ça nous a confortés dans ce rôle de la glie dans le couplage. Et encore plus loin, je dirais, pour ce qui est de la TEP au 2-déoxyglucose, qui est encore assez largement utilisée en neurologie et en psychiatrie, force est d'admettre que si on voit un signal 2-déoxyglucose particulier, bien sûr que ça sera lié d'une manière ou d'une autre à l'activation neuronale, mais on peut s'imaginer que s'il y a des altérations de ce signal, les mécanismes de couplage qui, eux, ont lieu au niveau astrocytaire pourraient être mis en jeu et défectueux. Et ceci ouvre la porte, et je vous donnerai quelques exemples qui, me semble-t-il, vont dans cette direction, à la possibilité que dans certaines pathologies neurologiques et psychiatriques, il y ait une forte implication, je suis un peu prudent, mais en tout cas, pour ne pas dire une relation causale, en tout cas, dans une dysfonction qui soit plutôt gliale que neuronale. Parce que finalement, si vous avez une dysfonction gliale, vous pourriez obtenir des signaux de métabolisme par imagerie qui sont altérés au regard même, éventuellement, je pense que tout s'imbrique, donc ce serait difficile d'imaginer que ceci n'a pas une conséquence sur la fonctionnalité neuronale, mais que, en fait, comme primum movens, on ait une dysfonction gliale. Et je vais discuter quelques éléments là-dessus. Et il y a de plus en plus d'intérêt, pour ceux qui suivent la littérature, sur le rôle de la glie dans les pathologies neurologiques et psychiatriques. Je vous donnerai quelques exemples, mais notamment dans les maladies neurodégénératives, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique également, que ce soit aussi dans certaines maladies psychiatriques, notamment les formes majeures de dépression. Je vous donnerai quelques exemples, en tout cas, qui sont compatibles avec cette hypothèse qui, pour ma part, me motive à aller plus loin et établir des liens avec nos collègues psychiatres. Voilà, juste un mot. Je vous ai surtout discuté, alors ça paraît assez, je pense, évident, le lien entre le signal déoxyglucose TEP et ce mécanisme glial. Mais j'aimerais aussi discuter très brièvement le lien possible avec ce mécanisme, cette implication de la glie dans la production du signal d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, comme vous le savez probablement, que je l'ai mentionné il y a un instant, en fait, cette technique d'imagerie fonctionnelle est basée sur des changements du rapport oxy-déoxyhémoglobine, n'est-ce pas ? L'hémoglobine peut lier de l'oxygène ou pas. Le sang artériel est enrichi en oxyhémoglobine, la apporte de l'oxygène au tissu, et le sang veineux est enrichi en déoxyhémoglobine. Alors, ce qui a été mis en évidence, c'est cet phénomène qu'on appelle le phénomène BOLD, qui est l'acronyme de Blood Oxygen Level Dependent Signal, c'est-à-dire le signal principal, parce qu'il y a d'autres signaux liés au volume sanguin, mais disons, le signal principal de l'IRM fonctionnel, c'est un signal lié au niveau d'oxygène présent dans le sang de la région activée. Donc, de la quantité d'oxyhémoglobine par rapport à la déoxyhémoglobine. Or, intuitivement, je suis sûr que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être ce détail, mais intuitivement, on va dire, bien sûr, la région activée aura moins d'oxyhémoglobine, vu que c'est une région activée qui va consommer de l'oxygène. Or, c'est l'inverse. Paradoxalement, la région activée contient un excès d'oxyhémoglobine. C'est montré ici dans ce petit schéma. On voit ici en bleu et en rouge l'hémoglobine, ici en bleu la déoxyhémoglobine, en rouge l'oxyhémoglobine. Et dans ce petit dessin, on voit que lors de l'activation, il y a en fait plus d'oxyhémoglobine que de déoxyhémoglobine, ce qui est en tout cas contre-intuitif, je veux dire. Mais ce changement du rapport oxy-déoxy produit un signal. En fait, comme je l'ai dit, ça agit comme une sorte d'agent de contraste interne, vu les propriétés paramagnétiques. Et elle va produire en résonance magnétique un signal qui est différent des régions avoisinantes, d'où finalement produire cette image-ci, cette image d'IRM fonctionnelle. Alors comment, ça reste une énigme en fait, de pourquoi la région activée, en tout cas une question ouverte, pourquoi la région activée contiendrait-elle, en tout cas pendant quelques secondes, plus d'oxygène que les régions avoisinantes. C'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment contre-intuitif. Or, en fait, par rapport au modèle que nous proposons, qui implique la glie, c'est tout à fait compatible. Parce que si en fait, on peut même remonter au diagramme suivant. Ce qui se passe lors de l'activation, c'est de la libération de glutamate. Ce glutamate va en fait enclencher l'entrée de glucose, et ce glucose va être traité du point de vue métabolique au niveau astrocytaire de manière glycolytique, c'est-à-dire sans consommation d'oxygène. Et c'est seulement plus tard, lorsque ce lactate est transféré aux neurones et qu'il est transformé en pyruvate, que ce pyruvate sera oxydé, et c'est là qu'aura lieu la consommation d'oxygène. Donc, dans ce modèle, il y a une sorte de temps d'inertie que l'on peut estimer à 1 à 2 secondes, durant lequel le glucose va être traité de manière non oxydative. Or, comme la région activée, évidemment, va recevoir plus de sang, le débit sanguin va être augmenté, il y a en fait plus de sang oxygéné qui arrive dans la région activée sans que l'oxygène soit immédiatement consommé. D'où cette proposition, en tout cas, qui rend compte de cet excès d'oxyhémoglobine qui produit le signal détecté par IRM fonctionnel. Et en fait, des travaux il y a quelques années, mais qui ont été confirmés récemment, montrent en fait par IRM spectroscopique un pic transitoire de lactate lors de l'activation chez l'homme. C'est une activation visuelle forte. Donc, ceci est compatible justement avec une consommation non oxydative de glucose qui aboutit à la production de lactate. Ensuite, ce lactate est pris par les neurones et oxydé. Voilà donc pour ce qui est des bases cellulaires et moléculaires de l'imagerie. Voilà pour ce qui est de cette intégration possible avec les signaux détectés par IRM et TEP. Et passons maintenant à quelques exemples de pathologies neuropsychiatriques. Alors, là, vous avez des images d'un cerveau normal et d'une TEP normale, ici. TEP déoxyglucose normale, ce qui est jaune et rouge dénote une activité importante. Et puis, sur le panneau de droite, un cerveau de malade d'Alzheimer en post-mortem et en PET, en TEP. Et vous voyez une atrophie importante. à la macroscopie, et une baisse importante de la consommation de glucose lorsqu'on fait une TEP de déoxyglucose. Alors, ceci n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où s'il y a atrophie corticale, perte de neurones, il y a une consommation d'énergie moindre, une demande énergétique moindre, et donc on ne sera pas surpris que la consommation de glucose soit diminuée. Par contre, ce qui est plus frappant, et c'est une étude, mais il y en a trois ou quatre maintenant qui ont été publiées, qui en fait ont été faites chez des sujets, chez différents types de sujets. D'abord, des sujets comme le précédent, c'est-à-dire avec une, en tout cas du point de vue clinique, des troubles cognitifs importants, avec, peut-être ce n'est pas idéalement montré ici, peut-être qu'on peut ici, une atrophie corticale et une diminution de la consommation de glucose. Il y a peu de rouge et beaucoup de jaune. Vous voyez ici une situation contrôle où il y a beaucoup de rouge, donc beaucoup de consommation de glucose. Et puis, deux sujets qui, du point de vue clinique, sont tout à fait normaux, présentent pas de troubles cognitifs, mais un des deux présente en fait cette allèle de l'apolipoprotéine 4, qui, comme vous le savez, est un polymorphisme qui est associé statistiquement à une vulnérabilité accrue pour la maladie d'Alzheimer ou pour un développement de la maladie d'Alzheimer. Et ce sujet, qui est normal du point de vue cognitif, présente déjà des baisses de la consommation de glucose, d'ailleurs dans des régions qui sont celles qui vont dégénérer initialement, temporo-pariétales notamment. Donc là, alors la question évidemment se pose de la validité de ce genre de d'approche en termes individuels, parce que évidemment la génétique, là, le gène, le polymorphisme, ça peut être mis en évidence, l'imagerie en principe aussi. Mais je pense qu'il reste encore à faire des études, si on parle maintenant du point de vue méthodologique, des études vraiment de corrélation beaucoup plus serrées entre l'imagerie et l'expression de ces gènes de vulnérabilité. Mais je pense que là, il y a d'abord une piste intéressante méthodologique, et deuxièmement, si on prend en compte le fait que ce glucose est essentiellement d'origine astrocytaire, alors, le signal de départ est un signal glutamatergique. Il y a peut-être déjà une perte de neurones qui ne se manifeste pas cliniquement et qui simplement produit moins de signaux pour l'importation de glucose. Mais on peut aussi s'imaginer que quelque part, il y ait une anomalie dans le couplage au niveau astrocytaire et que ceci produise un signal plus faible et aussi que ceci soit lié à l'importation moindre de glucose, qui rendrait des neurones plus vulnérables s'ils sont, du point de vue énergétique, dans un état limite. Et en fait, on est en train de travailler sur un modèle animal de sclérose latérale amyotrophique, et nous avons des raisons de croire, des résultats préliminaires, notamment avec le groupe de Patrick Ebischer, pour penser, en tout cas pour cibler, les données expérimentales sont assez claires, à une dysfonction de la fourniture d'énergie de la part des astrocytes vers les neurones. Donc, on peut ouvrir là un premier volet pour considérer les cellules gliales comme en tout cas impliquées dans certaines pathologies. Deuxième série d'observations qui sont tout à fait frappantes, c'est une étude qui a été répétée, une étude faite sur une cohorte assez grande et surtout par un groupe, une série de différents groupes de neuroscientifiques psychiatriques, si je puis dire, Bonnie, Akil, Watson, etc., qui ont en fait fait une analyse transcriptomique. Donc, ils ont examiné l'expression, les niveaux d'expression d'un grand nombre de gènes, plusieurs milliers. On peut faire aujourd'hui, comme vous le savez, sur ces chips DNA chips, on peut obtenir beaucoup de résultats. Après, faut-il encore les interpréter? Mais enfin, c'est une approche comme une autre qui est de plus en plus de nouveau En fait, une petite parenthèse par rapport à la méthodologie qui est de plus en plus utilisée en neurosciences psychiatriques, c'est-à-dire à partir soit de tissus post-mortem, soit même de marqueurs de cellules périphériques, fibroblastes par exemple, ou même biopsie cutanée, de examiner l'expression de certains gènes par cette analyse transcriptionnique. Et je dis certains, en fait, c'est plusieurs milliers de gènes. Alors, dans cette analyse qui a été faite au niveau du cortex dorsolatéral préfrontal, chez des patients qui souffraient de dépression majeure, il y a assez peu de gènes qui sont diminués. Ils ont toutefois mis en évidence trois gènes qui étaient sensiblement diminués, d'à peu près 30 à 40%. Et ce sont ces trois gènes, ce sont les deux transporteurs au glutamate glial et la glutamine synthase, qui est une enzyme qui permet de recycler le glutamate capté par l'astrocyte. Donc en fait, ce sont deux transporteurs et une enzyme qui sont gliaux, sélectivement exprimés dans l'astrocyte uniquement, et qui sont essentiels pour le recyclage du glutamate. Et en fait, des études toutes très récentes, il y a moins d'une année, faites cette fois-ci par résonance magnétique spectroscopique pour mesurer les niveaux de glutamate et de glutamine, alors chez des sujets évidemment vivants, ont démontré une baisse du glutamate et de la glutamine, et également du GABA. Et vous savez peut-être, mais que le GABA est synthétisé à partir du glutamate. Donc, il y a en quelque sorte des marqueurs post-mortem et des marqueurs neurochimiques qui indiquent dans les mêmes régions du système nerveux, c'est-à-dire le cortex dorsolatéral préfrontal de patients souffrant de dépression majeure, une diminution de, finalement, ce cycle de couplage entre le glutamate libéré, recapté par l'astrocyte et recyclé. Là, je ne vous l'avais pas indiqué dans le diapo initial, mais vous avez ici ce glutamate qui est recyclé sous forme de glutamine vers le neurone, ce qui permet de rétablir le pool de glutamate neuronal, de maintenir finalement. Il n'est pas à 100%, il y a des pertes, il y a d'autres mécanismes qui permettent de compenser, mais en fait, d'une certaine manière, ce glutamate est recyclé sous cette forme. Donc, ce qu'il y a, c'est que s'il y a une diminution de ces transporteurs et diminution de cette activité enzymatique, il y aura en tout cas deux conséquences. Petit à petit, une sorte d'épuisement, si vous me passez l'expression, du glutamate neuronal, dans la mesure où ce recyclage a beaucoup plus de pertes, vu que la glutamine n'est pas synthétisée ou beaucoup moins. Et du point de vue qui nous intéresse peut-être plus, du point de vue neuroénergétique, le signal qui permet l'importation de glucose au niveau du parenchyme va aussi être diminué dans la mesure où il y a moins de glutamate qui est recapté. Et en fait, une des observations assez classiques en imagerie cérébrale fonctionnelle au 2-déoxyglucose, la TEP2-déoxyglucose, chez les patients souffrant de dépression importante, c'est une baisse, justement, un hypométabolisme, notamment au niveau du cortex dorsolatéral préfrontal. De manière intéressante, il y a une augmentation au niveau amygdalien, par exemple. Mais je ne vais pas discuter ça plus loin, mais il y a, dans cette même région, une baisse de ce signal d'imagerie. Il nous reste quoi, une dizaine de minutes ? Peut-être, oui. D'accord. Alors, je vais peut-être passer brièvement à autre chose, voilà, et qui est donc voilà, je vous ai j'ai discuté ce couplage neurométabolique, et je voudrais juste revenir sur un point qui me semble très important dans ces études d'imagerie. Comme vous le savez peut-être, et d'ailleurs je l'ai dit en début d'exposé, la consommation d'énergie basale du cerveau est extrêmement élevée. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que les augmentations lors de l'activation spécifique, que ce soit motrice, sensorielle ou autre, En fait, ces augmentations sont relativement petites. Ce dont on parle, c'est des augmentations de l'ordre de 10 à 20 % par rapport au niveau basal. Donc, en fait, on est en présence, disons, la mise en évidence du signal se fait toujours par différence entre condition stimulée, ça c'est une stimulation visuelle, et une stimulation contrôle. Mais en fait, on soustrait probablement 80 à 90% de ce basal. Alors, cette différence qui permet d'identifier les régions est très utile, bien sûr, parce qu'elle a permis de faire des grandes avancées en neurosciences cognitives pour identifier les régions engagées dans des processus alors beaucoup plus subtils que simplement une stimulation visuelle ou une activation motrice. Mais demeure la question de ce basal. À quoi pourquoi ce basal? Pourquoi comme moi j'ai cette image que j'aime bien, elle est un peu comme ça simpliste peut-être, mais on peut s'imaginer que le cerveau est comme un moteur qui tourne en permanence à 6000 tours, et puis de temps en temps, à des endroits précis, il tournerait à 7000 tours. Mais c'est vraiment une machine qui tourne très très fort, avec beaucoup de risques d'ailleurs, parce que avec toutes ces activités oxydatives, il y a une production de radicaux libres, enfin je passe sur tout ce que ça implique, un métabolisme oxydatif si élevé. Alors, la question c'est pourquoi ce basal si élevé? Et on peut évoquer en tout cas trois possibilités, il y en a peut-être d'autres. L'une, c'est l'idée qu'en fait, et là je vais aller un peu rapidement, évidemment j'ai parlé de glutamate, qui est le transmetteur excitateur par excellence, mais évidemment, vous le savez, il y a également, il y a bien d'autres neurotransmetteurs bien sûr, mais dans 85% de synapses glutamatergiques, une dizaine de pourcents de synapses GABAergiques, inhibitrices, très efficaces, qui sont placées à des endroits stratégiques sur le neurone, donc elles sont très efficaces. Et la question qui s'est posée depuis toujours, finalement, pour les neurophysiologistes, c'est de savoir si le coût énergétique de l'inhibition était plus grand ou plus petit que celui de l'excitation. Et la question, encore aujourd'hui, reste ouverte. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais une possibilité dans les fonctionnements, dans l'analyse, lorsqu'on analyse l'activité de micro-circuits, c'est de se dire qu'en fait, il y a une activité excitatrice en permanence, mais qui est, si vous voulez, la sortie du circuit peut être nulle à cause d'une activité inhibitrice importante. C'est un petit peu comme si on avait un frein, un accélérateur. En même temps, on n'avance pas vraiment, mais ça consomme de l'énergie. Donc ça, c'est une option par rapport à cette idée de basal. Alors évidemment, d'être comme ça avec une excitation qui est inhibée en permanence permet une réactivité beaucoup plus grande des micro-circuits lorsque l'inhibition diminue. C'est plus facile de répondre rapidement probablement en inhibant l'inhibition qu'en partant d'un niveau très bas avec une excitation. Deuxième possibilité, ce sont les mécanismes de plasticité. Or, ces mécanismes de plasticité, comme vous le savez, sont à la base des mécanismes de mémoire et d'apprentissage. C'est comme ça que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Ce sont des expériences, notre apprentissage, nos souvenirs. Et là aussi, je ne vais pas dans les détails, mais vous savez certainement que vraiment c'est un des objets principaux de la recherche neurobiologique actuelle, c'est d'étudier en fait les mécanismes de facilitation synaptique, d'imaginer comment une expérience va modifier un ensemble de synapses et de cette manière créer une sorte de pattern de synapses facilitées, d'assemblée de neurones facilitées qui va être réactivée lors du rappel et reproduire l'expérience. Pour revenir à la psychiatrie, on pense aujourd'hui que notamment les troubles addictifs sont dus à une mise en jeu de mécanismes de plasticité dans certains circuits de la récompense, notamment système dopaminergique. Et donc, voilà, ce sont des mécanismes fondamentaux pour la mémoire et l'apprentissage. Or, ces mécanismes de plasticité ne sont pas nécessairement actifs en ligne. Notre cerveau fonctionne finalement en ligne, on est en perception, production de motrice, mais en même temps, entre deux, il y a intégration de toutes ces informations et surtout, probablement, mise en jeu de tous ces mécanismes de plasticité qui permettent la consolidation de l'expérience. Or, il n'y a pas de raison de croire que ces mécanismes de plasticité, ces activations des circuits neuronaux hors ligne, ne coûtent pas aussi de l'énergie. Donc, ça expliquerait aussi ce basal. Et puis finalement, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, ce qui est relié d'ailleurs au deuxième point, qui est celui des mécanismes de plasticité, c'est que dans ce basal, il y ait le coût énergétique de processus non conscients au sens le plus large du terme. Alors c'est ici que je devrais démarrer mon sprint final, mais je vais être un petit peu serré. Donc, je vais peut-être dire deux mots sur comment ces mécanismes, je pense que ces mécanismes de plasticité permettent de, en tout cas, tout à l'heure je parlais d'ouvrir des portes et des fenêtres, là je dis de créer des ponts et des ponts de discussion entre neurosciences et psychanalyse. Parce que si on se dit que, en fait, ces mécanismes de plasticité sont bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire ils sont à la base des mécanismes de la capacité qu'a le cerveau d'être modifié par l'expérience, et ces mécanismes impliquent la variation du nombre et de l'architecture des synapses, de l'efficacité synaptique, des réarrangements même structurels. Donc tous ces mécanismes de plasticité que je viens de discuter en relation à ce basal, à cette consommation, enfin comme un des éléments possibles de cette consommation d'énergie basale, mais on peut et créer justement ces ensembles de synapses facilitées qui seraient réactivées de manière précise lors du rappel d'un souvenir. Donc, enfin, tout ça pour dire que notre raisonnement, et quand je dis notre, c'est parce que j'ai beaucoup discuté et élaboré ce travail avec mon collègue François Ansermé, qui est psychiatre, chef du département de pédopsychiatrie à Genève, mais également psychanalyste. Nous avons pensé, nous proposons qu'en fait, ces mécanismes de plasticité qui permettent de constituer ces ensembles neuronaux qui codent pour des expériences, eh bien, on peut se dire aussi que d'une manière ou d'une autre, non seulement des expériences conscientes et rappelables à la conscience, mais aussi des phénomènes qui, en fait, constituent ce que Freud appelait la réalité psychique ou une réalité interne inconsciente, soit aussi issue de ces mécanismes de plasticité. Et lorsqu'on pense en termes de plasticité, notre idée, c'est justement que l'on puisse faire dialoguer neurosciences et psychanalyse. Alors, simplement, dans ce modèle, on a élaboré un tout petit peu plus loin, parce que sinon, pourquoi toutes les expériences ne seraient-elles pas conscientes? Qu'est-ce qui ferait que quelque part, ces mécanismes de plasticité permettraient de constituer des réseaux synaptiques qui sont bien là. Il y a des traces, mais elles sont, comme on dit en allemand, unbewusst, non connues, mais qui sont bien sûr très présentes pour le sujet. Alors, une des idées que nous avons eues et qui sont d'ailleurs, en tout cas, compatibles avec des expériences récentes dans le domaine de la neurobiologie expérimentale, c'est de se dire que voilà, une perception, cette perception une va en fait donner lieu à une trace. Une trace étant cet ensemble de synapses facilitées propres à cette expérience, et la réactivation de ces traces va réactiver justement cette expérience. Et puis évidemment, on a des dizaines et des dizaines, perception 2, qui donnerait ce type de réseau synaptique, l'expérience 3, etc., etc. Et puis, et c'est là, ce qui était pendant quelque temps une sorte de va-tout, ou enfin, quelque chose qui n'était pas démontrable ou démontré, c'est de se dire que Freud, il faut bien le dire, avait postulé qu'il y ait un réaménagement de traces, c'est-à-dire que des éléments, des traces pourraient se réassocier et finalement créer qu'il y aurait réassociation de traces existantes, ou en tout cas de parties de ces traces existantes, et qui créerait un nouvel ensemble neuronal réactivable, mais qui, lui, bien que constitué en partie par les traces créées par l'expérience primaire, en fait, aboutirait à créer des traces qui, elles, ne seraient plus en lien direct avec l'expérience initiale, et de ce fait, seraient beaucoup plus difficiles, voire ce serait même impossible de les réactiver consciemment. Alors, ceci peut paraître un peu spéculatif, et d'ailleurs ça le demeure encore, mais un peu moins peut-être au vu de certaines expériences récentes, soit de notamment des groupes de Yadin Dudai en Israël ou de Christina Alberini à New York, qui ont bien étudié le phénomène qui s'appelle, de manière d'ailleurs assez peu heureuse, de reconsolidation. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'ils ont mis en évidence, lorsque des traces sont réactivées, en fait, elles ont divers destins. Soit elles peuvent effectivement aboutir à une consolidation. C'est peut-être comme ça, quand on apprend une poésie, on la répète, on réactive ses traces, et puis quelque part, ça reste bien gravé. Mais l'idée, c'est qu'en fait, lorsque les traces sont réactivées, elles entrent dans une période transitoire de labilité, qui fait que, comme le dit Alberini, la signification fonctionnelle de cette phase labile de la reconsolidation est inconnue. Une hypothèse propose que ceci est nécessaire pour lier les nouvelles informations avec des souvenirs réactivés. Et on peut se dire que finalement, de réassociation, de réactivation en réactivation, de réassociation en réassociation, on constitue finalement cette fameuse discontinuité des traces qui, en fait, sont en partie constituées par les éléments initiaux de la perception, mais qui en créent autre chose. C'est d'ailleurs, du point de vue clinique, en tout cas, c'est quelque chose que discute Yadin Dudai, ça peut être l'origine de ce qu'on appelle les false memories, les faux souvenirs. C'est-à-dire quand on raconte finalement la même chose, finalement on n'est plus tout à fait dans la réalité initiale. Et c'est également maintenant utilisé, notamment dans le laboratoire de Christina Alberini, en lien avec les cliniciens, pour essayer de traiter, en tout cas d'aborder la question du PTSD, Post-Traumatic Stress Disorders, en se disant que si effectivement on réactive ces traces qui sont labiles et qu'on intervient pharmacologiquement, par exemple avec des glucocorticoïdes ou des bêta-bloqueurs, dans cette phase de labilité, on pourrait éventuellement diminuer, enfin comme ces traces sont labiles, diminuer leur importance ou qu'elles seraient associées à autre chose. Enfin, c'est un champ d'exploration, mais cette idée dans notre modèle, on va dire, de ce processus de reconsolidation, ce processus de réassociation de traces serait à la base de, en fait, la constitution de nouvelles traces qui, elles, aboutiraient justement à constituer à l'inconscient, en tout cas le non-conscient vu dans le contexte psychanalytique, étant clair qu'il y a bien sûr différentes formes d'inconscient, automatique, activé par des stimulations subliminales et autres. Mais là, on parlerait de quelque chose qui se construit par des processus de réassociation. Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que bon, j'aurais encore à élaborer un tout petit peu autour des états somatiques liés à ces traces, mais peut-être ça viendra dans la discussion. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, on reviendra à tout ça dans la discussion tout à l'heure. Notre second orateur donc, est Luc Mallet. J'ai connu Luc Mallet il y a quelques années, alors qu'il animait un petit groupe de jeunes psychiatres qui se réunissaient le samedi matin place Saint-Sulpice dans un bistrot avec l'objectif de révolutionner la psychiatrie. Il va maintenant nous parler de la stimulation cérébrale par électrode implantée à titre thérapeutique.